Bien, on va tout doucement commencer pour éviter de décaler trop dans le temps. Donc, vous avez, nous sommes vraiment très très heureux de voir que cet atelier a eu vraiment un tel succès qu'on est obligé de refuser à l'entrée à plusieurs dizaines de personnes. C'est vraiment très dommage pour elles, mais bon, on aurait peut-être dû effectivement imaginer que ça aurait dû être une session dans la grande salle. Bon, tant pis, c'est trop tard pour se réorganiser. Donc, on va commencer. Je crois que tout le monde est arrivé. Il reste une place ou deux. Voilà. Donc l'année dernière au congrès de Montreuil, j'avais dans le discours d'ouverture déjà parlé de la lecture et des différentes formes de lecture. Alors, ça faisait l'objet de discussions avec mon collègue et ami Dominique Lahari qui mettait en évidence la crainte de parler de la lecture toujours en termes de lecture de choses relevant de la culture légitime. Et donc, bien sûr, je lui disais que non, il n'en était pas question. L'objectif était de parler de toutes les formes de lecture. Et donc, je voudrais vous donner un exemple qui m'a refait penser à cette discussion très récemment. Je suis allé voir un film qui s'appelle Inch'Allah, peut-être que certains d'entre vous ont vu, de la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette, pas très connue. Et ce film... C'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans une organisation non gouvernementale dans les territoires occupés de Palestine, qui vit en Israël. Et ce film, par principe, fonctionne sur quatre langues, le français, l'anglais, l'hébreu et l'arabe. Et ce film ne peut pas fonctionner sans sous-titres. Et cette idée de pouvoir voir un film en lisant les sous-titres m'a fait penser à cette histoire de différentes formes de lecture, de différents types de lecture. Alors l'ancien discothécaire que je suis est aussi très, très attaché à l'idée de la lecture de la musique, par exemple. On ne peut pas forcément être tous de bons lecteurs ou de bons auditeurs de toutes sortes de musique. On a souvent besoin de clés. On a besoin d'apprendre à lire, des fois, aussi pour écouter de la musique, pour pouvoir profiter pleinement d'une œuvre musicale. Donc l'idée, c'est l'idée de effectivement de pouvoir s'approprier au maximum de ses possibilités, avec le maximum de clés possibles, des œuvres de l'esprit que peuvent être un écrit, un roman, une œuvre d'art, un film, une pièce musicale, par exemple. Je crois que c'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'on aborde... dans cet atelier, l'idée de la lecture, même si on va quand même essentiellement parler de la lecture de l'écrit. C'est un peu cette idée-là. On est aussi dans un congrès qui parle de la fabrique du citoyen, et donc la lecture aussi doit être vue dans cet aspect-là des choses. On a beaucoup entendu... toutes sortes déjà d'interventions depuis le début du congrès et de voir comment est-ce qu'effectivement l'accès à la culture et donc à ces différentes formes est importante pour la construction du citoyen, pour l'autofabrication du citoyen et l'aide que les bibliothèques peuvent apporter à cette autofabrication du citoyen. Pour cet atelier, nous avons invité trois personnes. D'abord, la première personne qui va intervenir, c'est Claire Bellil, qui est un peu la conscience scientifique de l'atelier, qui va nous présenter l'aspect scientifique des nouvelles lectures que le numérique impose. Et ensuite, on aura donc Franck Quérault, qui travaillait jusqu'à peu de temps encore dans le Sud et qui maintenant est en Alsace, donc un bibliothécaire que certains d'entre vous connaissent ici, et qui va parler aussi de ses expériences personnelles, professionnelles et personnelles dans la question, sous une forme qui lui sera très propre, très personnelle. Et enfin, nous aurons donc Violaine Camaché qui travaille ici à Lyon, à la Bibliothèque municipale de Lyon, qui se présentera plus précisément. Je crois que vous êtes responsable du secteur jeunesse, grosso modo, et qui parlera aussi des expériences lyonnaises, donc, ce qui nous permettra d'avoir trois points de vue, un point de vue scientifique et deux points de vue professionnels, probablement assez différents, mais probablement aussi assez complémentaires. Je vous prierai de noter vos questions personnellement pendant le cours des trois interventions Et après, donc, on aura le maximum de temps possible pour le débat. Et donc, vous pourrez reposer vos questions en fonction des trois interventions à ce moment-là. Madame Bellil, c'est à vous.
Bien, si je parle comme ça y est, vous pouvez m'entendre, c'est bon. Voilà, alors, je suis heureuse d'être ici avec vous ce matin et de voir que la lecture numérique a un tel succès. Ce que je voudrais voir avec vous, j'ai intitulé mon exposé « Du papier à l'écran, lire se transforme ». Alors, M. Wagner a dit que j'étais la caution scientifique. C'est vrai que nous avons travaillé cette question et les résultats, nous les avons produits dans deux ouvrages qui sont parus à l'ENSIB, un qui s'intitule « La lecture numérique » et l'autre « Lire dans un monde numérique ». Alors, je ne vais peut-être pas aborder directement ce qu'il y a déjà dans ces ouvrages, puisque le dernier est paru en 2011, donc ça commence déjà à faire du temps. Mais ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est beaucoup plus… Quelles sont les perspectives qui se dégagent avec ce que l'on connaît déjà de ce qui se transforme dans la lecture? Alors, je voudrais commencer mon propos en disant que nous n'avons jamais tant lu. Alors, je crois que c'est important d'en prendre conscience. Nous n'avons jamais tant lu, d'abord parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont alphabétisées dans le monde. Il y a 83% actuellement de la population adulte, selon l'UNESCO, c'est-à-dire 15 ans et plus, qui sait désormais lire et écrire. Et je crois que ça, c'est important de prendre acte de cela. Par ailleurs, vous savez que les publications ne ralentissent pas, puisque actuellement, nous avons encore à peu près 450 millions d'exemplaires de livres qui sont produits en langue française, qui sont vendus, pardon, en langue française. Ça, c'est les chiffres de 2011. Et qu'actuellement, en France, les dépenses de la vente de livres correspondent encore à plus de 50% des dépenses de biens culturels. Donc je crois qu'il y a une certaine certitude que la lecture existe et qu'elle est bien là. Et que par ailleurs, on peut constater que selon les métiers et selon les professions, savoir lire est devenu plus que jamais une nécessité pour tous. Mais ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, ce n'est pas la lecture comme telle, mais c'est l'interaction entre la lecture et la technologie. Et c'est à la fin des années 90, au début des années 2000, que sont apparues ces premières tablettes destinées à la lecture, qu'on n'appelait pas encore liseuses à l'époque. Et avec elles est apparue l'annonce de la fin des livres papier, ce qui avait déjà suscité beaucoup d'inquiétudes. Et je pense que les personnes qui sont là se souviennent de certaines de ces intitulés. Lire sur écran, est-ce encore de la lecture? Ou bien est-ce que l'Internet ne nous rend pas stupides, selon l'article de Nicolas Carr, qui lui-même avait constaté qu'à force, un journaliste américain, à force de travailler sur l'écran, il avait pris l'habitude de laisser de côté des lectures un peu longues ou de livres un peu conséquents. Les jeunes seront-ils encore capables de lire demain? Que dire aux parents inquiets à propos du temps que passent leurs enfants devant des écrans? Que sera la vie, si la lecture disparaît? Êtes-vous pour une jeunesse sans littérature? Donc pourquoi la lecture serait-elle en danger avec l'arrivée de nouveaux supports technologiques? Après l'arrivée des liseuses, qui se sont effondrées, vous vous souvenez, avec la bulle Internet au début des années 2000, sont apparus les fichiers numériques, c'est-à-dire qu'on pouvait lire des livres sur l'ordinateur. Et à ce moment-là, est apparue une autre crainte, encore suscitant encore plus d'inquiétude, qui était la disparition de la lecture elle-même. Parce que pour beaucoup de personnes, lire sur un écran, ce n'est pas vraiment de la lecture. Alors, les questionnements se sont multipliés tout au long des années 2000, comme si le développement des écrans représentait une réelle menace, non seulement pour la lecture de l'écrit, mais pour la lecture de toute littérature et même pour la survie de la culture. Alors, voilà moi ce que je voudrais voir rapidement avec vous, parce que je dispose de 15 minutes pour faire ça. Il y a des changements tectoniques, et je souligne bien le mot, tectoniques, qui sont en cours et auxquels la lecture n'échappe pas. Je voudrais voir un premier type de changement dans les représentations, les supports et les textes. Je pense que c'est ceux que vous connaissez le plus, mais je voudrais quand même les revoir avec vous. Deuxièmement, un changement dans le rôle de la lecture. Et je dirais le rôle de la lecture de livres papier dans la culture. Je vais terminer avec des changements dans les modalités de lecture et je voudrais vous décrire rapidement trois modalités qui sont en émergence, qu'on peut déjà commencer à identifier dans les multiples façons de lire sur écran. Alors, dans un monde numérique, je crois qu'il y a eu beaucoup de discours qui se sont fait connaître sur le monde numérique. Je voudrais simplement, moi ici, vous signaler l'importance que l'on sous-estime sans doute du développement sans précédent des technologies qui permettent de numériser toute information. L'expression « dans un monde qui devient numérique », je la prends chez Gérard Berry, un ingénieur qui a fait une leçon au Collège de France qui s'intitulait ainsi « Comment et pourquoi le monde devient numérique ?» Et je pense que ce développement des technologies, ainsi que l'utilisation de méthodes de calcul et de transport de cette information insensible à la nature et au contenu de l'information, et tout ça caractérisé par un taux exceptionnel d'innovation et donc une production phénoménale de connaissances. Voilà ce qui actuellement va caractériser ce monde numérique. Et donc je pensais que c'était important pour nous qui vivons des changements sociaux et économiques. Je pense que dans l'économie, ce n'est pas la peine de faire un tableau, on le voit, l'importance du développement du numérique. Dans l'éducation et le partage des connaissances, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais avec les cours massivement en ligne et ouverts, on voit qu'il se dessine un nouveau paysage de l'enseignement universitaire, c'est-à-dire un accès universel et donc la nécessité de repenser ce que sera cette formation. Mais cet accès illimité à l'information ainsi que la disponibilité d'outils n'est pas une situation nouvelle. Et je vous ai mis ici une citation de Anne Blair qui a écrit un livre qui s'intitule « Too much to know ». Plus que toute autre découverte ou invention particulière, c'est un intérêt nouveau pour la recherche et l'accumulation de l'information qui a été la cause décisive de l'explosion de l'information. Et Anne Blair parle du 16e et 17e siècle. C'est-à-dire que, et là je voudrais attirer votre attention sur ce qui s'est passé au moment de la Renaissance. Je crois que nous vivons aujourd'hui un changement de rapport à l'information très proche de celui qu'ont vécu les gens du XVIe siècle avec l'arrivée de l'imprimerie. Et la diffusion facilitée à travers les livres, aujourd'hui, vu rétrospectivement, c'était une diffusion très limitée, mais de fait, ça a été vécu à l'époque comme étant une explosion incontrôlée de l'information. Et Anne Blair a justement fait des recherches sur quels ont été les moyens qu'ont développé les gens du XVIe siècle pour faire face à l'explosion d'information. Pour vous dire aussi que ce qui est nécessaire pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre cet intérêt que suscite le numérique, cet intérêt pour la connaissance, cet intérêt pour de nouvelles façons d'interagir avec les données, avec l'information. Donc, parmi les changements, je vous disais, je vais commencer par les représentations et après je verrai les supports. Il est important que nous prenions conscience que lire aujourd'hui, c'est interagir, chercher, sélectionner, écrire, et que cela vient heurter de plein front ce qu'est lire pour la plupart d'entre nous. Est-ce encore, quand on entend la question « est-ce encore de la lecture ?», qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la représentation que l'on a de la lecture ne coïncide pas avec ce qu'on observe comme étant de la lecture, ce que les personnes disent être en train de faire comme étant de la lecture. Lire s'est profondément modifié au cours de l'histoire. Je crois que là, les historiens de la lecture, comme Chartier par exemple, nous ont suffisamment alertés sur l'importance des changements et qui ont toujours été vécues comme des ruptures inadmissibles sur les façons de lire antérieures. La lecture numérique va nous amener à lire autrement, et notamment à dissocier, c'est-à-dire à ne pas faire en même temps ce qu'on avait pris l'habitude de considérer comme étant de la lecture au sens plein du terme, c'est-à-dire décoder, comprendre, interpréter, mettre en sens, produire un sens. Il y a aussi des changements dans les supports. Alors, je vous ai mis là les deux types de supports qui aujourd'hui, on associe beaucoup le plus à la lecture, mais bien sûr, il y a le téléphone et il y a l'ordinateur, hein, je ne l'oublie pas. En 2006, Sony sort une liseuse à encre électronique. Je suis certaine que vous n'avez pas entendu parler de cette liseuse, ou presque pas, parce qu'elle n'a pas eu de succès. Et pourtant, Amazon va sortir la Kindle en 2007, à peu près avec les mêmes caractéristiques techniques, et ça va être le commencement du développement du marché des liseuses. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Eh bien, j'ai essayé de vous le montrer ici avec ce qui déboule là de nulle part. C'est les livres que Amazon va pouvoir mettre dans son Kindle. Pourquoi? Parce qu'Amazon, se présentant comme étant une très grande librairie en ligne, va obliger les éditeurs à faire ce que jusque-là, ils ont toujours refusé de faire, c'est-à-dire de passer massivement au numérique. Et Amazon va disposer de livres à mettre dans son Kindle et grâce à ça, elle va pouvoir le vendre. Et cela rejoint nous, quand on avait fait des expérimentations de livres numériques, de liseuses en bibliothèque dans les années 2000-2002, on avait eu toutes les peines du monde à obtenir des livres. Et on n'avait pas eu du tout la garantie des auteurs que si les livres, les supports se développaient, ils seraient d'accord de faire le pas. En 2007, les éditeurs français n'ont pas fait le pas par contre. Et voilà deux autres liseuses à encre électronique. La liseuse, c'est le clone du livre imprimé. C'est ce qu'on peut avoir de plus proche du livre imprimé. Et c'est aussi ce qui va permettre à beaucoup de gens de faire le passage de support du papier au numérique. Et puis est arrivé en 2010 l'iPad. Alors l'iPad, c'est un objet qui a été décrié. Il est sorti, vous souvenez, il a été annoncé en janvier. Il est sorti en avril. Quand il est sorti, tous les analystes technologiques en technologie ont dit qu'il n'y avait rien de nouveau dans ce support et qu'il était promis sans doute un avenir assez éphémère. Parce qu'il existait déjà des tablettes. On l'a oublié. Qu'est-ce que va apporter la tablette iPad ? C'est un objet vraiment improbable et personne n'avait besoin de cet objet au moment où il sort. Et pourtant, il a eu le succès que vous savez. En 2010, il est arrivé en avril 2010, fin 2011, on avait déjà vendu 100 millions de tablettes iPad. Beaucoup plus si vous comptez toutes les tablettes, mais la marque iPad avait déjà vendu 100 millions, c'est-à-dire la marque d'Apple. Pourquoi ? Eh bien parce que cet objet s'est présenté comme un symbole d'innovation sociale. Et les gens ont voulu être associés à cette innovation. Et sur le plan technologique, cette innovation, elle s'appuyait sur un écran tactile. On va donc avoir un basculement vers l'usage de l'écran tactile. Ça s'appuyait aussi sur le déplacement de l'interaction personne-machine d'un poste fixe avec un clavier et une souris à un déplacement une interaction avec un objet nomade. Et enfin, troisième chose, c'est que cette tablette va utiliser le stockage à distance, donc dans les nuages, et on va avoir donc des limites infinies. Aucune limite, pardon, pour pouvoir stocker sur ce support. Je vous ai mis donc d'autres modèles, puisque Kindle a sorti aussi sa tablette. Donc là, on a des tablettes à écran à cristaux liquides, ce qui amène un certain nombre d'inconvénients que je pense que vous avez déjà bien entendu parler. Il n'y a pas que les représentations qui doivent changer, il n'y a pas que les supports qui changent, il y a aussi le texte lui-même, de l'écrit au multimédia, c'est-à-dire que les textes sont devenus cherchables. Je pense qu'on a oublié à quel point cette caractéristique est très, très importante. Bon, mais je passe plus rapidement sur les autres choses puisque le temps avance et j'ai encore des choses que je voudrais vous dire. Deuxième changement, le rôle de la lecture. C'est ça qui est en train de changer et c'est ça qu'on a beaucoup de peine à admettre. La lecture a été, et pour beaucoup, la lecture sur papier, je ne répéterai pas ça tout le temps, mais je crois qu'il faut avoir en tête, c'est bien la lecture sur papier qui a été l'expérience fondatrice de la culture. Avec la lecture en silence, l'immobilité corporelle, les différentes caractéristiques de cette expérience. Alors, on passe d'une position centrale de la lecture de livres papier pour l'acquisition de la culture à un rôle de plus en plus important des médias dans l'acquisition de la culture. Et ça s'est fait tout au long du XXe siècle. On n'a pas pris garde, on ne s'est pas rendu compte à quel point les médias progressivement remplaçaient la la lecture dans l'acquisition de la culture. Et ce qui fait que pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, la lecture dans le cadre scolaire ou universitaire est une lecture purement fonctionnelle. Ce n'est plus là qu'ils construisent leur identité. C'est une lecture qui doit servir à obtenir le diplôme recherché. Il y a par contre de nouveaux lieux d'acquisition de la culture sur lesquels je ne reviens pas. Et je voudrais donc terminer en disant que les pratiques de lecture se diversifient. Bon, je ne parle pas de la lecture sur papier qui demeure et là, il y aurait beaucoup à dire. Mais il y a une pratique liseuse, celle-là, elle est très proche de la lecture papier et on peut tout à fait arriver à lire des textes qui sont présentés comme de vrais clones et les PDF sont faits pour ça, du texte sur papier. Mais il y a trois types de lectures qui se dégagent actuellement, qu'on commence à identifier. Premièrement, l'émergence d'une lecture qu'on va appeler dynamique. C'est la lecture infocom, sur laquelle je vais revenir. Deuxièmement, une lecture plus complexe qui correspondrait à ce que sur papier on appelait la lecture profonde, mais qui sera la lecture intelligente, c'est-à-dire la lecture avec un travail intellectuel très puissant, mais qui ne sera plus la lecture profonde du papier, parce que celle-là, elle va rester sur le papier. Et troisièmement, une découverte d'une lecture immersive pour la littérature numérique née numérique, c'est-à-dire qui est construite en utilisant à plein les parties du papier. Si on voit rapidement la lecture dynamique, c'est un nouveau contexte pour la littératie, c'est-à-dire pour apprendre à lire et à écrire que l'Internet. Et actuellement, dans cette lecture qui consiste à lire, à interagir, à sélectionner du texte, à activer des hyperliens, à faire des choix, revenir en arrière, on a distingué 5 compétences de base qui ne sont pas du tout innées et on se demande actuellement où on peut les acquérir. Premièrement, il faut savoir formuler une question et un problème. Quand vous allez sur Internet, si vous n'avez pas une question et un problème, si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous avez très peu de chances de le trouver. Alors, vous rentrez dans une bibliothèque, vous regardez les livres papier, il y a beaucoup plus de chances que vous allez tomber sur ce que vous cherchez que sur l'Internet. Là, il faut savoir formuler la question. Il y a des outils qui peuvent vous aider, mais deuxièmement, il faut localiser l'information pertinente. Bon, pour ça, il y a les moteurs de recherche. Il y a des moteurs largement dominants, mais il y a des moteurs spécialisés aussi. Il faut savoir s'en servir, il faut savoir comment ils font leurs recherches, comment émerge l'information. Ensuite, il faut savoir lire en examinant de façon critique l'information. D'où vient l'information? Qui est l'auteur de l'information? Il faut savoir synthétiser cette information et il faut savoir la communiquer. Et tout ça avec des outils. Deuxième type, la lecture profonde. Qu'est-ce que j'appelle la lecture profonde? Eh bien, on pense à la lecture réflexive, c'est-à-dire ce processus qui consistait à sélectionner un texte, l'explorer, le questionner, l'interpréter. Ça a été le modèle dominant de la lecture papier. Et c'est un modèle qui a immigré vers la lecture de romans pour beaucoup. Et c'est un modèle qui est issu de la critique humaniste, comme une méthode à la fois rationnelle et expérimentale, très centrée sur le questionnement du texte. Eh bien, je pense que nous allons vers un autre mode de lecture dite profonde, que j'ai appelé la lecture complexe, avec de nouveaux outils cognitifs pour sélectionner, trier l'information, pour la cartographier. Alors, je vous donne deux références. Il y a eu un article d'Annie Fefan dans le dossier d'actualité de la veille technologique que fait l'Institut français d'éducation, qui était sur la nouvelle façon... Les recherches qui se font et les formations pour restructurer l'information, parce que nous avons une approche disciplinaire, il y a l'approche par les bibliothèques, mais il y a besoin d'une autre approche pour pouvoir prendre en compte comment l'information est disponible sur le net. Et enfin, je vous donne un exemple de comment on pourrait arriver à penser autrement. Ça veut dire qu'on va écrire autrement. Et cette écriture autrement, voilà l'exemple « Mapping Controversies ». Vous avez à gauche un ensemble de présentations. C'est un projet qui a consisté à donner à des étudiants un travail à faire. On leur a demandé de choisir une controverse scientifique auquel les politiques devaient faire face, c'est-à-dire, par exemple, les OGM ou, par exemple, la procréation assistée pour la naissance. Et on a demandé... Donc, les politiques doivent se prononcer sur ces questions et ils font appel à des conseils, des scientifiques. Donc, on a demandé aux étudiants... Cherchez sur Internet toute l'information et ailleurs, toute l'information nécessaire pour pouvoir prendre une décision éclairée sur la controverse en question. Et ensuite, vous allez devoir inventer un mode de présentation à base de visualisation. Il y a longtemps que dans le monde scientifique, on utilise la visualisation pour pour gérer le trop-plein d'informations que l'œil humain ne peut pas gérer. Et donc, on passe par des outils de visualisation. Et donc, on leur avait demandé d'inventer des outils. Donc, si vous allez sur Internet et que vous faites Mapping Controversy, vous allez trouver, il y avait l'IEP de Paris, il y avait Polytechnique, il y avait Polytechnique de Lausanne, il y avait une université américaine. Donc, il y a des restes qui sont sur Internet. C'est un projet qui date de 2009 et 2010. À droite, vous avez un outil, par exemple, que IBM propose gratuitement, avec lequel vous pouvez faire plusieurs sortes, ça s'appelle Many Eyes, plusieurs sortes de présentations. Et enfin, la découverte d'une littérature immersive. Mais là, pareil, je faisais référence, et je vais m'arrêter parce que je déborde beaucoup, je faisais référence à un livre que vous connaissez peut-être, qui est le livre La Maison des Feuilles de Daniel Levski, qui est un livre assez extraordinaire, dans lequel on retrouve une littérature qui met en question le rapport au réel et à la fiction que nous avions l'habitude d'avoir avec les livres papier. Et là, on va avoir un roman qui va nous permettre d'entrer dans un autre univers. Et cette littérature numérique a bientôt 50 ans. C'est pour ça que dans notre dernier ouvrage, il y a deux chapitres. Un chapitre d'introduction par Philippe Boots, qui est un des écrivains les plus anciens, qui s'occupe le plus et qui est prof à Paris 8, de cette question. Et donc, on a un ensemble de littérature à la disposition. Eh bien, voilà, je m'arrête là parce que je crois que j'ai bien pris le temps. Merci.
Bon, il va sans dire qu'effectivement, le temps imparti est un peu rude par rapport à la qualité et à la richesse des présentations. Donc, il va falloir compenser effectivement cette dureté par le débat après, bien sûr. Oui. Petit changement technique, passage d'un univers informatique à un autre univers informatique.
Bonjour à tous. Je suis ravi vraiment de voir que le sujet de la lecture numérique fait succès, remplit les salles. C'est vraiment agréable. Alors, voilà, je vais essayer de faire court. Je n'ai pas l'habitude, excusez-moi. Je vous invite à une promenade ce matin autour du livre numérique. Alors attendez, pourquoi ma diapositive elle se met pas? Ça marchait bien tout à l'heure.
Problème de résolution.
Voilà, en direct. Donc je vous invite à une promenade qui va être donc numérique. Elle est non exhaustive, hein. C'est vraiment une focale et elle va être complètement subjective. Voilà, c'est La flânerie d'un bibliothécaire de 2013 dans le web littéraire. Je ne vais pas vous parler ni de livre homothétique. Livre homothétique, c'est le livre strictement identique au livre imprimé. Donc le livre où il n'y a absolument aucun travail sur la manière, la narration de raconter une histoire. Je ne vais pas vous parler des livres applications, hein, puisque vous trouvez ça sur l'iTunes Store ou sur Google Play. Maintenant, ça ressemble, parfois il y en a des biens, parfois ça ressemble plutôt à des CD-ROM, ni des livres enrichis. Je vais juste vous parler d'une expérience de lecture numérique parmi d'autres, hein, donc c'est juste une illustration. Et surtout, je vais vous parler de comment les auteurs, pas tous les auteurs, certains de ces auteurs, se sont saisis aujourd'hui, actuellement, du web, utilisant les codes et les ressources du web pour donner des dimensions nouvelles à notre expérience de lecture. Dès qu'on lit numérique, on se pose la question de comment lire. Voilà. Donc, il y a un livre qui est assez intéressant d'une auteure contemporaine qui s'appelle Anne Savelli, qui s'appelle Des Holloway. Holloway, ça veut dire ou lire ou écrire. Donc pour lire, pour écrire, il faut choisir un lieu, un endroit pour être bien, un espace stimulant. Être seul ou dans une agora, peu importe, sur support imprimé ou numérique. Ça ne change pas. Pour lire, pour écrire, donc, il faut d'abord choisir un lieu où l'on est bien. Et la lecture, c'est vraiment un moment d'intimité, de réflexion. Claire Bellil a parlé des différentes formes de lecture au cours du temps. Lire un roman sur un écran, devant un écran, ce n'est pas forcément évident. L'invention des tablettes et des liseuses permet aujourd'hui d'être confortable, d'être affalé dans son canapé ou de lire dehors, dans l'herbe, n'importe où. Le livre numérique là, que je vous cite et que je vous invite vraiment à découvrir et à lire, si vous ne le connaissez pas encore, vous pouvez le télécharger pour une somme absolument démente de 3,99 €. Je n'ai pas d'action chez l'éditeur. Je vous invite à lire ce livre parce qu'il ne parle que de ça, de où lire, où écrire. Et puis évidemment plein d'autres choses puisque c'est un livre assez consistant. La lecture numérique nous invite donc à nous poser de nouveau la manière de lire, nos manières de lire. Anne Savelli, c'est une auteure qui travaille aussi beaucoup sur la forme du livre. C'est une auteure contemporaine. Elle vient de sortir un livre récemment que vous avez peut-être vu qui s'appelle « Décor Lafayette » où elle s'est immergée dans les galeries Lafayette à Paris et puis elle raconte ça. Elle travaille sur la forme du livre et le livre, en fait... Une des choses qui se modifie avec le numérique, c'est sa forme et son immuabilité, on va dire. C'est qu'on ne sait pas forcément quelle version du livre nous pouvons lire aujourd'hui. Elle écrit, sa conception de la littérature, c'est il n'est pas toujours évident de basculer du côté de la publication, de se décider à faire lire, de s'exposer. Cela m'a pris du temps. Longtemps, j'ai pensé fragments que j'aurais mis sur blog quand j'avais 18-20 ans, si Internet avait existé. Et non, livre. Un jour, j'ai pensé livre, c'était Fenêtre, c'est un de ses premiers textes publiés, ce qui m'a poussé à envoyer mon texte en lecture. Cependant, j'ai pensé livre comme ceci. Un livre, pour moi, est un ensemble de livres constitués de fragments. La structure qui soutient chaque livre en assemble les fragments, et en réalité, la structure d'ensemble, celle qui unit les livres, tous les livres, et je ne sais bien sûr combien il y en a, puisque je suis vivante, espère n'avoir pas terminé. Qu'on ne s'y trompe pas, tout cela me paraît sans rapport avec le mot « œuvre ». Je continue en effet à penser l'écrit sous forme de fragments. Par contre, avec le mot « site », on peut réfléchir. Je vais néanmoins continuer à employer le mot « livre », comme je dis « écrivain ». Simplement, le sens, dans mon esprit, une fois de plus, c'est « depuis l'enfance, déplacé ». Et si ça ne va pas, il n'y aura qu'à inventer un mot. Anne Savelli a inventé le mot « holoé » ou « lire » ou « écrire » et diverses formes pour ses livres. Cette écriture de fragments, elle l'a utilisée de plusieurs manières. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui est sorti dans la collection « La forêt » chez Stock en 2010. Donc Franck, c'est l'histoire de quelqu'un qui a fini sa vie en prison et qui a été... Voilà, elle raconte tout ça. C'était son ami et elle raconte par des petites touches toute cette difficulté de la relation et de l'histoire de cet homme. Alors, je ne vais pas vous raconter le livre. Ce qui est intéressant, c'est comment à partir de ce livre, elle a inventé d'autres formes. Donc là, Franck, chez Stock, c'est le livre imprimé. Donc un texte qu'on publie peut prendre plusieurs formes, et même une fois édité, connaître des prolongements inattendus. Donc par exemple, premier prolongement de ce livre, ça a été la publication donc, chez Publinet, un des éditeurs numériques assez efficaces aujourd'hui sur le net, avec un autre auteur qui s'appelle Thierry Benstingel. Et donc c'était un prolongement à partir des histoires de Franck. Pierre Ménard, qui est aussi un bibliothécaire, qui travaille à Melun, sous un autre nom, Pierre Ménard, c'est un pseudonyme, a aussi travaillé sur ce livre et a rajouté une dimension sonore. En fait, le livre peut être lu à certains endroits. ce qui est encore plus intéressant par rapport à ce livre, toujours Franck, hein, toujours le même livre, en fait, dès le début, elle a créé un site internet donc, que vous pouvez aller voir, qui existe toujours, qui s'appelle Dans la ville haute. Vous voyez juste une. J'ai fait une copie d'écran de son site. En fait, le site, pour la lecture de ce site, en fait, vous cliquez sur les images. Et en fait, derrière les images, vous allez voir après, elle a mis en ligne donc son site et elle propose une lecture intégrale. Donc, elle s'est enregistrée sur ce site et vous pouvez lire ce livre commencer dans l'ordre qu'il vous plaît en fait. Vous êtes attiré par une photo, vous allez lire le chapitre. Elle est cohérente avec sa manière de penser la littérature, c'est-à-dire par fragments. La lecture, elle est aléatoire dans ce livre et la forme correspond à cette écriture de fragments. Donc, je viens de le dire. Et pourtant, c'est la même histoire que celle du livre imprimé, que l'on suit dans le livre imprimé. Donc là, elle interroge la forme du livre, la forme, la manière de raconter des histoires, hein, la narration, une narration continue ou une narration aléatoire. Et en fait, quand vous lisez les deux livres, hein, le livre imprimé et le livre sur le site internet, c'est assez étrange, mais on arrive une expérience de lecture assez similaire, enrichissante. Sur ce site, en fait, vous voyez, donc là c'est une page, j'ai pris une image au hasard. Vous avez donc la possibilité de l'entendre. Là, on n'est pas en ligne, donc je ne peux pas vous la faire entendre. Mais vous avez aussi des accès sur les côtés, donc à votre droite, et qui en fait sont des sortes de tags. Tous ces textes ont été tagués, et en fait, c'est des autres possibilités de rentrer dans le texte, de lire. C'est une autre manière. Voilà, ce qui change un peu parfois. La manière de lire. Taguer pour multiplier les accès au texte, transformant notre expérience de lecture. Donc. Et puis, elle travaille aussi, en fait, sur le site, il y a d'autres choses, donc de l'intertextualité. Là, elle raconte, par exemple, dans cet exemple, un atelier d'écriture, une conférence, pardon, qu'elle a donnée dans une librairie autour de son livre. Voilà. Donc, vous avez. Si vous êtes passionné aujourd'hui par ces livres, en fait, vous avez la possibilité d'avoir une expérience de lecture assez multiple, imprimée sur le site, sur un site sur un autre livre qui se prolongeait, qui s'appelait Autour de Franck. Voilà. Tous les jeux sont permis. Voilà, en termes d'écriture numérique. Certains auteurs sont en train de se saisir en fait des codes du web pour raconter autrement. Voilà, là c'est un autre exemple, c'est une personne qui s'appelle Mathilde Roux, qui a un blog qui s'appelle Quelque chose, et là récemment elle a fait un billet, elle raconte une histoire, et qui est aussi de manière sonore, et puis vous lisez à la manière... qu'il vous plaira. Donc les auteurs jouent toujours avec la structure du texte et d'autant mieux s'ils connaissent les rudiments du code. Donc c'est peut-être une nouvelle... On dit toujours que les bibliothécaires doivent acquérir des nouvelles compétences en termes de numérique. Là, les auteurs qui vont maîtriser ces compétences autour du code vont pouvoir nous inventer des livres un petit peu nouveaux. Ce qui est intéressant dans le web littéraire aussi, c'est que de plus en plus, les auteurs, les interactions, elles se font entre auteurs, elles se font avec les publics. Et par exemple, aujourd'hui, c'est le premier vendredi du mois, donc il y a une opération qui s'appelle Vase Communicant. Je ne sais pas si vous connaissez cette opération. Ce sont des auteurs qui publient imprimés ou numériques, des blogueurs qui publient aussi des livres, qui décident de travailler ensemble et de partager sur leur blog, sur un thème, à partir d'une photo, à partir d'un souvenir. Enfin, on se met d'accord avant et puis on écrit chacun sur le blog de l'autre. Voilà. C'est à l'initiative au démarrage de François Bon qui a lancé cette expérience et ça existe depuis 2 ans et demi et puis tous les mois il y a un certain nombre d'échanges. Je ne sais pas si vous connaissez cette expérience. Voilà, il y a un blog qui recense les échanges Il y a un groupe Facebook sur lequel les interactions entre blogueurs et auteurs se font. Voilà, donc il y a en général entre 30 et 40 participants à cette opération. Le prochain rendez-vous, bah, c'était aujourd'hui, c'était aujourd'hui à minuit, donc on publie tous en général à partir de minuit sur nos blogs respectifs. Voilà. On publiera ce PowerPoint, je vous ai mis des liens, comme ça vous pourrez aller voir tranquillement et découvrir toutes ces choses. Ce qui est intéressant aussi avec les expériences que font les auteurs, c'est que bah, ils créent des blogs pour raconter des histoires. Les livres, les manuscrits, en fait, sont parfois sur des sites internet et sont pas forcément destinés à la publication, mais c'est une expérimentation temporaire. Donc là, par exemple, c'est un auteur qui avait un pseudonyme imprononçable, Jörg von Alens, voilà, je vais m'arrêter là. En fait, c'est Laurent Margantin, qui est un traducteur d'allemand, je vais en parler après, qui a été au Kerguelen, aux îles Kerguelen, avec deux grandes cantines, une cantine remplie de thé vert, il est fan de thé vert, et puis une cantine de livres. Et il a postulé pour aller au Kerguelen. C'est pas facile d'aller sur les îles Kerguelen parce que c'est une île réservée aux scientifiques. Et donc, bah, ils ont vu arriver cet Ostrogo qui a réclamé une petite maison pour venir lire simplement. Voilà. Donc, il raconte. On a pu suivre sous la forme feuilleton ces pérégrinations là, donc jusqu'au 24-31 mars. Je sais plus. Ça vient de se passer. Voilà, je vous invite à aller voir ça, c'est vraiment intéressant. Ça aide d'ailleurs, ça c'est un autre éditeur de livres numériques intéressant, c'est Numérique Livre, qui est un éditeur canadien. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, le site est devenu un livre là, voilà, dans ce cas-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des chercheurs qui créent des sites et qui collaborent et qui écrivent ensemble. Donc ça, je pense que c'est important en termes de veille, d'acquisition pour nous, les bibliothécaires, d'aller explorer toutes ces facettes du web. Donc là, par exemple, il y a Pierre Cohen Adria qui participe souvent au Vase Communicant, qui partage régulièrement sur son site avec d'autres chercheurs des textes qui ne sont pas toujours des résultats de recherche, mais qui sont parfois des promenades, des flâneries, etc. Voilà. Et puis, il y a aussi le carnet du label Hypothèse, hypothèse.org, c'est une plateforme de blog où il y a souvent des choses extrêmement intéressantes. Le label Hypothèse, c'est une structure collective de production et diffusion d'art contemporain sur le site de Pendant le Week-end, donc qui est propulsé par Pierre Cohen Adria. Autre expérience sur laquelle, là, je vous ai dit que c'était subjectif, hein, sur laquelle j'ai participé, j'ai mis ma pierre, c'était il n'y a pas très longtemps, on a republié sous la forme d'un feuilleton. Je suis devenu ami avec un monsieur que vous devez connaître qui s'appelle Christian Poslaniec, qui est un auteur jeunesse, qui a écrit beaucoup de livres et qui a notamment écrit des romans policiers, et dont un des romans policiers, Les Fous de Scarron, a obtenu en 90 un prix, le prix du roman policier de Cognac la même année. Donc on s'est rencontrés un petit peu par hasard par le web, et puis en vrai après, puisque c'est pas toujours des rencontres virtuelles, et on a décidé en discutant de faire une expérience web, et la notion d'expérience c'est important. On a donc republié son livre Les Fous de Scarron sous forme d'un blog, sous forme de feuilleton, donc tous les mercredis, tous les vendredis, on avait fait la publicité et on a publié ce livre. Alors on a juste simplement rajouté une petite chose, c'est qu'on a travaillé avec une amie commune qui s'appelle Réjeanne Niogré, qui est conteuse de son état et qui a enrichi le livre d'une manière un petit peu originale. Je vais vous en reparler après. Donc voilà, bon, ça vous lirez tranquillement, j'accélère. En fait, le principe du livre, c'est qu'on a recopié systématiquement tout le livre sous forme numérique. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait une photo, il y avait la possibilité d'avoir de cliquer et d'aller sur ce qu'on appelait une surprise. Et donc, Réjeanne Niogré, en fait, elle a écrit un autre texte autour des fous de Scarron, qui enrichissait ou qui amenait d'autres facettes. Voilà, ça c'est quelque chose qui est toujours en ligne. Et donc actuellement, on est à la recherche d'un éditeur numérique pour publier ça sous forme d'un livre numérique. Donc c'est une autre étape. Voilà. Ce qui est intéressant sur le web, et là en tant que bibliothécaire, je pense que vous devez aller explorer le web, c'est qu'il y a des choses vraiment très intéressantes. Donc Laurent Margotin, le monsieur qui est allé aux îles Kerguelen avec sa mallette de façon... sa cantine de thé vert. Il est donc traducteur et actuellement il traduit, retraduit le journal de Kafka. C'est une vraie belle expérience, je vous invite à aller voir ce travail. Ou bien il y a une professeure de latin, Danielle Carles, qui actuellement traduit un blog donc, qui s'appelle Fonds Banducia, qui retraduit en ce moment, c'est l'Énéide de Virgile. Voilà. Et elle partage son travail petit à petit sur le web. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte d'interaction qui se fait avec les auteurs. Les auteurs ne sont plus forcément dans leur tour d'ivoire, mais acceptent éventuellement des éléments soit perturbateurs, des commentaires négatifs ou des commentaires positifs. Voilà. Donc il y a des jolis échanges parfois à lire. Voilà. C'est un choix. Avec le numérique, je vous avais dit tout à l'heure que la forme n'était pas forcément fixe. Et là, par exemple, sur un des derniers livres de François Bon, qui est aussi un livre en tant que bibliothécaire à lire, après le livre, une réflexion d'un auteur sur comment utiliser le web aujourd'hui pour écrire, vous voyez qu'à un moment donné, le livre, dans les premières mises en ligne le 17 janvier 2011, mise à jour numéro 9 le 29 septembre 2011. Donc en 9 mois, en fait, François Bon a fait évoluer son texte au fil des commentaires, puisque le texte est paru au préalable sur son site web. Voilà, donc en tant que lecteur ou en tant que bibliothécaire, on peut toujours se demander quelle sera la version qui fera foi dans notre bibliothèque, laquelle on va choisir. Voilà, en fait, c'est terrible. La première, la troisième ou la dernière. François Bon est un des acteurs majeurs sur le web. On peut être d'accord ou pas d'accord avec lui, mais bon, ce qui est intéressant, c'est toutes les expériences qu'il il stimule une certaine manière d'écrire, une certaine manière d'utiliser le web. Lui, il dit le livre, c'est le web pour lui. Donc il est déjà dans une sorte d'après. Souvent, en termes de livre numérique, on a tendance à vouloir faire ce qu'on appelle du livre homothétique, un livre semblable. Lui, il pense que la forme du livre est en train d'évoluer et il adore donc cet aspect expérimental. Et donc, son site, le tiers-livre, en fait, c'est comme si on rentrait dans son atelier et on voyait tous les projets en cours. Donc là, c'est pareil, c'est assez intéressant parce qu'il il propose plein de choses. Par exemple, sa très belle biographie sur Led Zeppelin, c'est un livre qui existe sous forme imprimée, qui existe sous une version aussi modifiée sur Internet. Et actuellement, il publie plein d'ajouts, de chapitres autour de ce livre. Voilà, donc c'est bientôt fini, j'ai bientôt fini, je vais vite. Voilà, bon là vous irez voir, c'est autour de Proust, il avait écrit, donc c'est un livre qui va sortir sous forme imprimée en septembre, donc nouvelle manière d'écrire, retour de la forme feuilleton, cette interaction avec les lecteurs du blog, voulue ou pas aujourd'hui par les auteurs, donc après on peut se poser la question de la pertinence de ça, hein. Chacun pourra-t-il être un auteur aujourd'hui, hein, ça ne change rien, hein, même si on a une facilité à publier sur Internet aujourd'hui. L'auto-édition, ça existait avant. Il y aura toujours, à un moment donné, sur Publinet, par exemple, ou sur Numérique Livre, il y a un comité éditorial, il y a une politique éditoriale. Le rôle de l'éditeur, il est toujours là. Hein. Voilà. Et ma question, c'est quoi être un auteur en 2013, hein, avec toutes ses capacités. Voilà. Je vais passer vite, vous irez voir le PowerPoint. Il y a un certain nombre aussi de revues numériques qui sont extrêmement intéressantes. Il y a la revue D'ici là, il y a une revue qui s'appelle Paysage écrit, et puis récemment aussi une nouvelle expérience qui s'appelle Nerval.fr, où là il y a carrément un magazine avec des fictions, des nouvelles. C'est vraiment intéressant. Là, je vous donne un coup de cœur sur un livre numérique, hein, puisqu'on parle de lecture numérique, donc je fais un peu de recommandations. Allez voir ce livre. Alors, le problème de ce livre, c'est qu'il faut le télécharger et ça ne fonctionne pour l'instant que sur un iPad, mais c'est un joli travail entre un auteur qui est une professeure de philosophie et Louise Imagine, qui est une photographe qui habite à Montpellier. Et donc, ils se sont retrouvés, ils ont inventé une belle histoire mélangée avec des sons, des bruits de la ville, des choses racontées. Voilà. Et pourquoi je mets cette diapositive ? Parce que, en fait, construire un e-pub, c'est pas simplement prendre le fichier numérique sous PDF ou sous Word, il faut vraiment le construire. C'est un vrai travail. Pour ce livre, c'est Roxane Lecomte qui a vraiment magnifié le travail des deux auteurs. Voilà, notre promenade touche à sa fin. Je suis j'ai complètement explosé le délai. Je vous ai mis cette diapositive parce que, chers bibliothécaires, chers collègues, donc comme je vous l'écris, la lecture numérique ne se réduit pas à un inventaire de noms d'objets, mais il faut vraiment qu'on travaille sur qu'est-ce que nous allons trouver en termes de lecture et qu'est-ce que nous allons proposer à nos lecteurs. Comment allons-nous justement nous saisir de ce nouvel archipel en cours de création ? Nous avons laissé passer plusieurs coches là, successivement dans les années qui viennent de passer. Le catalogue collectif rêvé par tous les bibliothécaires, est-ce que c'est désormais Google ? La recommandation, c'est-à-dire les sites de bouche à oreille comme Babelio ou LibraryThink, voilà, les lecteurs de livres sont aujourd'hui sur ces sites. Voilà. Je trouve que Babelio ou LibraryThink, c'est quelque chose qui aurait dû être inventé par des bibliothécaires. Enfin, vous ne trouvez pas ? Les blogueurs lisent déjà des livres numériques. Hein, les critiques littéraires actuelles des grandes revues, etc., ne vont pas lire de livres numériques ou très peu. Hein, je lis pas souvent de critiques de livres numériques. Pourtant, il y a une vraie littérature sur le web. Et donc là, bah, par exemple, Numérique Livre, lui, il agrège les critiques des blogueurs. Voilà. Donc il fait sa pub, mais bon, c'est peut-être pas lui de faire ça. Donc bibliothécaire, encore un effort pour paraphraser une phrase célèbre. Positionnons-nous sur la lecture numérique. Les critiques littéraires n'y sont pas. Les sites de recommandation, peu ou pas. Nos catalogues de bibliothèques ne peuvent pas accueillir les livres numériques. On en reparlera peut-être dans les questions. Les SIGB, sont à faire évoluer, vraiment. Certains éditeurs agrègent des critiques de blogueurs, donc c'est plutôt à nous de faire ce genre de travail. Enfin, voilà. À nous d'explorer, de faire découvrir, d'orienter. Donc, évidemment, il faut se préoccuper du type de matériel de lecture. C'est un aspect technique, mais il ne faut pas qu'on se bloque uniquement sur les aspects techniques. Je pense qu'il faut y aller, il faut expérimenter, au risque de laisser filer notre mission principale, qui est de lire et faire lire. Voilà, peut-être il faut qu'on... tout à l'heure, je plaisantais, je disais, il faut peut-être qu'on arrête d'organiser des concours de pétanque dans les bibliothèques. Je caricature. Parce qu'on propose beaucoup plein de choses aujourd'hui qui n'ont plus forcément rapport avec nos missions. Voilà. Donc peut-être est venu le moment de nous recentrer sur la lecture. Et moi, je rêve d'une bibliothèque qui est centrée lieu d'écriture et lieu de lecture. Donc défricher, choisir, proposer, c'est un peu vraiment nos missions. Comment ? Alors, je ne sais pas, une proposition. À l'issue de ce, on crée un site collectif de lecture numérique, hein, je ne sais pas, au sein de l'ABF. On crée un blog, et puis bah, les gens qui lisent numérique mettent des critiques, et ça sert à tout le monde. On diversifie, relie nos propositions d'actions culturelles, les ateliers d'écriture, les dispositifs de lecture sur tablette et liseuses qui sont en train de se construire un peu partout en France. On développe des liseuses thématiques. Enfin voilà, on a le seul problème, c'est notre imagination en fait. On est capable d'organiser tout ce travail. Voilà, merci. Voilà. Et pour, parce que je ne vais pas vous lâcher comme ça, je vous ai préparé sur le PowerPoint pour commencer, parce que si vous ne savez pas où aller, Il y a François Bon fait un Edvibe qui permet de donner plein de listes de blogs d'auteurs qui sont vraiment intéressants à lire. Et puis, sur ma précédente expérience, je travaillais à Médiathèque de Saint-Raphaël, on avait développé une bibliothèque numérique, on pourra y revenir dans les questions. On a mis en ligne sur le site tous les éditeurs qui nous semblaient intéressants en termes de livres numériques. Voilà, je vous remercie, je laisse la place à Violaine.
Bonjour. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Violaine Canemaché, je suis responsable de la coordination du réseau des espaces jeunesse à la Bibliothèque municipale de Lyon. Moi, j'ai vraiment basé ma petite présentation sur un retour d'expérience. Et donc, je suis ravie d'avoir entendu Claire Bellil et Franck Quérault parce que finalement, tout se rejoint un peu. Donc, je vais vraiment vous faire part de l'expérience qu'on mène depuis quelques mois à la Bibliothèque de Lyon. Ça sera très terre-à-terre, très pragmatique. Et en même temps, ça rejoint et ça illustre sans doute beaucoup de propositions ou de questions qui ont pu être évoquées précédemment. La question de cet atelier était comment le numérique modifie le rapport à la lecture et quel est le rôle des bibliothèques au sein de ces changements-là. Dans mon esprit, ça rejoignait une autre question qu'on s'était posée il y a 2-3 ans à Paris, qui était « Y aura-t-il des enfants lecteurs au XXIe siècle ?» Et c'était intéressant aussi, et finalement, c'était une des questions que Claire Bellil a pu poser. Donc, au niveau de la lecture, moi, je m'occupe donc des secteurs jeunesse, des secteurs de l'enfance. On commence avec les petits qui ont 0-6 mois et finalement on s'intéresse aux adultes aussi qui entourent les enfants. Et de part de notre observation, en fait, on se rend compte que la lecture des enfants est en réalité très très proche des modes de lecture que propose le numérique aujourd'hui, parce que l'enfant il a un rapport au livre qui n'est pas uniquement intellectuel, il ne s'intéresse pas uniquement au contenu, il a un rapport extrêmement corporel au livre. Donc pour faire vite, j'aime bien cette expression d'imaginer l'enfant comme un œil qui écoute. En effet, il écoute l'histoire qui lui est lue avant de savoir maîtriser l'âge de la lecture. Donc finalement, pour lui, d'avoir un livre sur tablette qui est lu par quelqu'un d'autre, c'est une expérience qu'il fait déjà assez régulièrement. Il a une approche évidemment très tactile du livre. Il va toucher, caresser, soulever les éléments. Et finalement, les livres jeunesse ont depuis très longtemps exploré les champs qu'on retrouve aujourd'hui dans le numérique, les pop-up, les apparitions-disparitions, le côté très ludique, les imagiers sonores. Et donc, il y a déjà tous ces artifices qu'on trouve dans le support livre et que l'enfant va retrouver, mais de façon complètement naturelle, dans le support numérique. Alors, l'exemple le plus caricatural, le plus abouti aussi, c'est ce fameux livre... qui s'appelle Un livre de Hervé Tullet, je pense que vous le connaissez tous.
Une sorcière d'il y a 2 ans.
Voilà, et qui a sa version numérique. Alors, j'avais prévu, mais bon, si tout le monde le connaît, ça sert à rien. Et en plus, j'ai la vidéo version anglaise, mais c'était pour montrer illustrer ce rapport au livre voilà, complètement tactile, complètement corporel. Ouais. Bon, je coupe, mais c'est pour vous montrer. De toute façon, quand on voit un enfant lire, il pointe, il cherche, il nomme, il va répéter, il va voir derrière la page, voir si on voit le dos, le verso en fait, du bonhomme. Donc finalement, sa lecture en lui-même, elle n'est pas vraiment modifiée. Et ce qui est amusant quand on commence à proposer des lectures sur tablette en bibliothèque, c'est qu'on assiste à des renversements de posture. C'est-à-dire que quand il s'agit de livres, et notamment pour les plus jeunes, l'enfant va avoir besoin de l'aide d'un adulte qui va servir un peu de médiateur, qui va essayer de donner accès notamment au texte. Et finalement, l'adulte a une certaine réserve par rapport à l'écran. Et il hésite souvent à toucher. Moi, je l'ai vu même entre collègues, c'est-à-dire qu'on était face à l'écran et on avait du mal à trouver toutes les subtilités, toutes les ouvertures qu'il pouvait y avoir proposées par les créations numériques. Et donc finalement, on le voit de plus en plus, c'est l'enfant qui lui a cette approche complètement tactile de l'objet, qui va devenir médiateur pour son accompagnateur et qui va finir par donner accès à la totalité du contenu qui a été pensé. Parce que l'enfant, il est dans cette démarche de fouiller, de chercher, de toucher à tout, de trouver des solutions pour pouvoir avancer. Donc, j'étais toujours dans cette question au niveau de la lecture pour l'enfant. Le passage de la page à l'écran, dans le domaine de la jeunesse, se fait de façon très naturelle. Hein. Et ce qui est pour nous très intéressant, en tout cas à la Bibliothèque de Lyon, c'est qu'on se rend compte que le numérique est aussi un nouveau territoire de création, qui est absolument passionnant, qui est riche et qui a vraiment de vraies réalisations purement numériques au-delà du produit dérivé du livre jeunesse ou du livre homothétique. Et donc se pose cette question effectivement de comment choisir, quels critères. Et en tout cas ce que nous on remarque, c'est qu'il y a à la fois une qualité qui est recherchée, à la fois dans le propos mais aussi dans la langue, dans les choix d'images, d'illustrations, dans les choix de sons. Il y a aussi cette même recherche, on va dire, de la surprise, hein, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire d'un support qui va ouvrir à autre chose, au même titre que le livre peut le faire. Donc mon deuxième point, de façon très scolaire, c'était quel est le rôle des bibliothèques dans ces changements-là, et là aussi, comment à Lyon, on s'est emparé de ces questions. Avec la question de la sélection et de la critique dont parlait Franck Quéraud. Donc cette idée de constituer finalement une bibliothèque numérique d'application, quel contenu, pour quel usage évidemment, pour quel public, avec toutes les limites techniques qu'on peut avoir aujourd'hui dans les bibliothèques, on va dire en termes techniques, en termes juridiques aussi. C'est aussi comment connaître les éditeurs et définir des critères communs pour sélectionner les applications. Comment suivre la production éditoriale. Dans le domaine de la jeunesse, ça s'organise. Alors, pas directement par les bibliothécaires, mais en tout cas, les sites et les groupes qui s'intéressent à ces questions-là contactent les bibliothécaires. En tout cas, à Lyon, on est engagé dans différents dispositifs. J'en ai mis quelques-uns. Donc, Déclic Kids, qui est un site de sélection d'applications jeunes publics et qui ont notamment fait une dizaine de critères, de principes qui sont assez super à aller voir, à les lire. Le blog de la Souris Grise, qui est notre partenaire à la Bibliothèque de Lyon, qui est un blog de sélection d'applications jeunes publics et qui a créé le CRAC. Alors le CRAC, c'est un cercle numérique pour la jeunesse qui regroupe des éditeurs et des professionnels du livre et des professionnels de l'enseignement. Et l'idée, c'est vraiment d'avancer ensemble dans la création, et en tout cas, nous, de pouvoir aussi expliquer les retours qu'on peut avoir des usagers, de donner notre avis pour essayer de faire émerger des belles créations, et voilà, en émettant des réserves qu'on peut avoir sur d'autres choses qui nous sont proposées. Et puis, il y a la petite bibliothèque ronde hein, à Clamart, qui a cette vocation de créer une sorte de label de bibliothèque, donc c'est au niveau national, avec plusieurs bibliothèques qui participent, d'organiser une veille commune, justement sur qu'est-ce qu'on peut proposer de numérique aux jeunes publics, selon quels critères, comment envisager le positionnement des bibliothèques sur ce terrain-là. Donc c'est modeste, mais en tout cas dans le champ de la jeunesse, on essaye d'y travailler ensemble. La deuxième grande implication des bibliothèques au-delà des sélections, c'est évidemment la médiation. Dans le domaine numérique, elle est d'autant plus importante qu'elle s'oriente sur des ateliers parents-enfants. Nous, c'est quelque chose vraiment qu'on a essayé de développer. Et finalement, on rassure beaucoup les parents sur le fait que l'importance, ce n'est pas tant le support que le contenu, et que finalement, de la même façon qu'il y a des livres commerciaux qui sont sans grand intérêt, ou en tout cas qui ont une activité, on va dire, distrayante, mais qui enferme et qui est parfois appauvrissent, et d'autres, au contraire, qui ouvrent sur un imaginaire. Et pour les applications, pour les créations numériques, c'est exactement la même chose, et qu'il faut avoir ce regard, ce même regard critique et exigeant. L'autre type d'animation qu'on développe et qui fonctionne bien, j'aime bien cette photo parce qu'on voit que malgré les tablettes, les enfants s'intéressent toujours aux livres. C'est ce qu'on appelle, nous, des petits bouquins où on mêle la présentation d'ouvrages et d'applications autour de thématiques. Et pour conclure et illustrer toute cette réflexion autour du numérique jeunesse, pour nous, elle est partie aussi d'un projet qui est actuellement présent sur le réseau des bibliothèques de Lyon, qui s'appelle Récréation. Art et culture nouvelle génération. Alors pour nous, il y avait cette question de nouvelle génération qui est fortement imprégnée du numérique, c'est-à-dire nouvelle génération de public, évidemment, cette fameuse génération Y dont tout le monde parle, hein. Nouvelle génération d'artistes aussi qui utilisent le numérique dans absolument tous les domaines, évidemment le livre, mais le cinéma, la musique, l'art contemporain, le design, et nous, tous ces champs nous intéressaient. Et donc on s'est intéressé au numérique qui venait transformer à la fois le champ de la création et surtout le rapport au savoir, le rapport à la notion d'apprentissage, la posture de transmission. Et finalement, c'est ça, je pense, qu'il y a de plus révolutionnaire avec le numérique. C'est pas que ça modifie notre rapport à la lecture, c'est que ça modifie notre rapport à la connaissance et notre posture, entre guillemets, d'érudit ou dans la transmission d'un savoir. Et c'est bon, évidemment, d'autres le disent bien mieux que moi et Michel Serre en première. Mais en tout cas, dans l'expérimentation qu'on peut faire, c'est aussi ce qu'on a voulu essayer avec cette grande exposition, alors qui est une exposition et un espace d'expérimentation aussi. Donc on s'est posé la question, comment parler d'art et de création à cette nouvelle génération numérique? Comment utiliser le numérique aussi comme outil de médiation, toutes les possibilités qu'il permettait pour que l'enfant ne soit pas, enfin l'enfant, le public, l'adulte, ne soit pas seulement spectateur, consommateur, mais devienne aussi acteur. C'est des choses relativement classiques. Au sein de cette exposition, il y a un petit jardin bibliothèque qui nous permet de présenter, alors c'était un choix, de présenter dans un même espace des livres et des tablettes, pour montrer à la fois la proximité et les différences qu'il pouvait y avoir entre ces deux niveaux de création, mais qu'en aucun cas il y avait de concurrence. Et finalement, très vite, une fois, on va dire, l'attrait de la nouveauté passé, parce qu'évidemment les enfants vont se précipiter sur les tablettes, très rapidement ils reviennent aux livres aussi, et il y a un équilibre qui se fait de façon assez rapide. Et donc, pour ce travail-là, on a sélectionné donc des applications, on a travaillé avec des éditeurs, on a travaillé avec la souris grise pour essayer d'être le plus qualitatif, on va dire, être très exigeant, en tout cas dans ce qu'on voulait montrer aux enfants, aux parents, aux éducateurs. Le deuxième objectif pour nous, c'était dans ce monde numérique, justement, de parler du processus de création et d'essayer de casser cette image du numérique qui ne serait fait que par des machines. Alors bon, évidemment, vous le savez, les enfants, pas forcément. Et finalement, plus les choses se dématérialisent, moins on voit l'humain derrière. Et donc, on a fait un gros travail de rencontres, de rencontres métiers, d'ateliers avec des créateurs, d'expliquer que pour faire une application jeune public, on partait d'originaux à l'aquarelle, comme pour faire des livres, par exemple. Et finalement, d'essayer de réhumaniser un peu tout ce champ du numérique pour que les enfants, les classes, les enseignants, les adultes prennent conscience que ça changeait beaucoup de choses, mais que le travail derrière et les personnes qui le faisaient restaient semblablement les mêmes. Le troisième volet que permet le numérique, en tout cas dans cette exposition, c'est effectivement de rendre l'enfant acteur à travers des dispositifs qui sont créés par des artistes. Alors, par exemple, nous avons travaillé avec Lab 212, qu'on a créé des mini-ateliers comme ça, où, grâce au numérique, l'enfant devient créateur à son tour. Vous voyez sur l'image centrale, il y a un livre qui s'appelle Tip Tap, Imagier Interactif, qui est un livre CD-ROM publié chez Helium, qui est un dispositif tout simple, mais qui fonctionne très très bien. Finalement, on a un imagier avec des mots, une sorte de catalogue de mots. Et quand on écrit le mot sur un clavier et qu'on met entrée, l'image s'affiche à l'écran. Et puis on peut le modifier, on peut dire qu'on veut trois sapins. Si on dit que c'est l'hiver, il y a la neige qui va tomber. On va créer des tableaux interactifs comme ça. Ça peut sembler bête, c'est absolument magique dans la compréhension, on va dire, de l'enfant. Le lien entre le mot, le sens, et finalement, il devient créateur d'histoire. L'autre, là, c'est difficile de le représenter en image, mais sur Lyon, il y a des résidences numériques d'artistes et de scientifiques qui se développent, notamment avec le centre Erasme, et c'est quelque chose d'assez important, et je pense d'avenir aussi dans des perspectives de réduction de moyens financiers, c'est-à-dire qu'il y a des classes qui sont en contact avec des écrivains, avec des artistes, avec des scientifiques qui montent des projets. Et en fait, c'est des résidences numériques avec des rendez-vous Skype, avec des blogs où il y a une co-création et puis une rencontre réelle qui se fait à la fin de l'année. À Lyon, ça se fait dans les collèges, c'est porté par le Conseil Général avec le centre de développement numérique qui s'appelle Erasme. Et je trouve personnellement que ça ouvre des perspectives aux bibliothèques vraiment passionnantes. J'ai fini. Donc ça, bah, pas tout à fait en fait. C'était juste pour vous dire que voilà, pour nous bibliothécaires et bibliothécaires jeunesse, c'est vraiment un territoire de création qui est absolument passionnant à explorer et que ça modifie surtout notre rapport au savoir, à la connaissance. Et ce qui change dans notre rapport avec le public, c'est de savoir où se situe l'érudition. L'intelligence qui évolue, on l'a vu tout à l'heure, hein, cette intelligence qui devient un esprit de synthèse, la capacité à lire très vite dans tous les sens et qui parfois nous dépasse. On voit beaucoup d'adultes qui sont déjà dépassés par la lecture de manga ou la lecture de bande dessinée parce qu'il faut lire plusieurs informations simultanément. Le numérique, c'est un pas de plus vers cette façon de lire plusieurs choses simultanément. Mais en tout cas de l'expérience que j'en ai, il ne s'agit absolument pas pour moi d'une révolution. Les fondements de notre travail restent absolument les mêmes, les supports changent et avec eux l'accès au contenu, et finalement c'est une évolution que je trouve normale et bénéfique pour notre métier. Voilà, cette fois-ci j'ai fini, merci beaucoup.
Alors, comme on devrait terminer dans 3 minutes, bon, on va terminer dans un certain temps, hein, bien sûr, parce qu'on a commencé en retard, franchement. Non, mais c'était une plaisanterie, rassurez-vous. Donc, on passe tout de suite aux questions. Est-ce qu'il y a déjà des questions ?
Il n'y a plus besoin du...
Il n'y a plus besoin de questions.
Non, je parle du... On va peut-être...
Non. Oui.
D'accord. Je voulais simplement savoir si à la part Dieu, ce que vous avez sélectionné comme site, c'était accessible à toutes les médiathèques.
Pardon.
Accessible dans quel sens, en fait,
si vos sélections, on pouvait avoir accès avec les droits de cession.
Alors. La sélection au titre, on va dire comme une sitographie, enfin une applicraphie, je ne sais pas, vous la trouvez sur le site de Récréation, recreation.bm-lyon.fr, dans notre bibliothèque idéale. Après, alors, pour être honnête, sur Lyon, on est dans cette phase d'expérimentation. Au niveau de la création jeune public, très clairement, 99% de ce qui est intéressant est développé sur iPad. Donc on s'est équipé d'iPad et donc on a acheté, alors les applications qu'on présente, elles sont en accès libre, on achète les droits entre guillemets, on achète l'application, une application on peut la développer, l'installer sur 5 machines différentes. Nous on a travaillé beaucoup avec les éditeurs, donc ils nous ont donné un certain nombre de droits comme un peu un service presse. Mais par contre, il y a, pour le moment, en tout cas, d'un point de vue juridique, on n'a aucun moyen de prêter des applications. Mais j'ai envie de dire, si vous avez envie d'utiliser nos sélections pour développer des propositions dans vos bibliothèques, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et c'est un travail donc, qu'on a initié pour Récréation, qu'on va vraiment poursuivre maintenant, qu'on a vu que ça marchait, qu'on a vu que ces supports-là, alors il faut imaginer, hein, les premières tablettes à la bibliothèque de Lyon, on avait peur qu'elles se fassent évidemment voler, abîmer, puis alors en plus les donner à des enfants alors que même les adultes n'y avaient pas droit, c'était pire que tout. Donc au début on avait des systèmes anti-vol mais incroyables, et qui fait que c'était absolument pas manipulable par personne, et finalement quand le contenu est bon, il n'y a absolument aucune dégradation, il y a un respect du matériel là, sans aucun souci. Et on a même arrêté en atelier de les anti-voler ou de les fixer à la table parce qu'on ne voit aucune raison de... Enfin, voilà, toutes les réticences, finalement, on les a dépassées par l'expérience. Et je trouve que Franck a raison de dire qu'il faut y aller, quoi. Parce qu'à Lyon, c'est pareil, on a attendu, ça fait 5 ans qu'on est prêt, qu'on réfléchit et qu'on avait toutes les réserves du monde. Et évidemment, il y a plein de choses qui ne marchent pas, il y a plein de choses qu'on aimerait faire et qu'on ne peut pas parce qu'on a une bibliothèque, etc. Les marchés, hein, la question des marchés qu'on a résolu en passant par des cartes cadeaux, ce que font la plupart des bibliothèques. Donc finalement, on contourne en attendant que ça... des cartes cadeaux pour acheter des applications.
Je peux donner une info là-dessus qui est intéressante.
Vas-y. Bah, juste, c'est qu'on ne peut pas acheter... En tout cas, à Lyon, on n'a pas de marché pour acheter des applications. Alors, en l'occurrence, à iPad, il faut un compte Apple, un compte iTunes. En revanche, il existe des cartes à la FNAC, je pense ailleurs d'ailleurs, qu'on peut acheter à 50€, à 100€, qu'on appelle des cartes cadeaux, et qui donnent accès à l'achat d'applications en ligne. Et étrangement, sur nos budgets, dans nos marchés, on a le droit d'acheter des cartes cadeaux. Donc, on a une ligne budgétaire d'acquisition d'applications numériques qui est composée d'achat de cartes cadeaux.
Je vais donner une info.
Ce qui n'est pas illégal, hein, ce qui est simplement une utilisation des moyens qu'on nous donne pour avancer.
Alors, une info importante, parce qu'en ce moment, à Strasbourg, on va développer des espaces justement de médiation numérique avec des tablettes et des liseuses, tout type de tablettes, hein, des iPads et des choses sous Android. Alors, le problème avec Apple, c'est qu'on a bien compris, ils sont super forts en communication, ils adorent l'argent, donc il faut systématiquement sortir sa carte bleue dès qu'on veut acheter quelque chose. Si on veut développer dans une bibliothèque une flotte d'iPad, de plus de 5 iPads, vous allez être très vite embêté avec les cartes iTunes, parce que, en fait, pour un compte, vous allez être obligé de créer plein de comptes iTunes, parce qu'un compte iTunes ne gère que 5. C'est passé à 10, voilà. Bon, moi, je suis allé à l'Apple Store de Strasbourg il y a 15 jours, et donc je suis revenu tout content avec la responsable des finances de la médiathèque en disant « Super, ils ont accepté de faire un compte entreprise, puisqu'il y a un compte entreprise avec vous pouvez gérer à partir d'un logiciel qui s'appelle, alors attends, ça me fait toujours rire, le logiciel, c'est Configurator. » Voilà le nom, c'est sérieux, hein. J'ai rigolé quand ils m'ont raconté ça. On est revenu super content donc avec la personne qui s'occupe des finances en disant super, ils acceptent le principe que la fonction publique paye avec des bons de commande à 90 jours. Waouh, super! Donc ils m'envoient tous les liens pour acheter aussi une sorte d'armoire pour recharger toute la flotte d'iPad. Et je suis super content. Et il me réécrit, deux jours après, en me disant, bon, on a été appelé notre siège à Cupertino, là, chez notre ami, comment il s'appelait, le monsieur, là, qui est devenu un dieu, Steve Jobs. Voilà. Et il me dit, ah non, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça, vous avez, vous allez être obligé de mettre une carte bleue. Alors je dis, vous savez, c'est kafkaïen. Dans la fonction publique, nous n'avons pas de carte bleue. Voilà. Donc, et alors finalement, on retourne avec ma collègue voir interroger le service finance de la CUS, enfin cette grande entreprise, cette grande collectivité. Et en fait, le service de finance avait été farfouillé sur le ministère des Finances. Et enfin, le ministère des Finances, il n'y a personne du ministère des Finances dans la salle, non, a décidé de rentrer dans le 21e siècle. Et donc, ils ont inventé ce qu'on appelle une carte achat. Donc, je vous passe les détails de la procédure, mais je vais faire un billet sur mon blog qui s'appelle Mémoire de silence. C'est mon nom sur Twitter et c'est mon blog professionnel. et je vais faire un billet pour informer toute la communauté des bibliothécaires sur la méthode. En fait, il faut faire voter au niveau de votre collectivité, avec votre service finance, une sorte de délibération qui vous permet d'acheter avec cette carte achat et d'ouvrir un compte grande entreprise. Parce que si vous avez une grande flotte de matériel et que vous voulez mettre à jour, vous allez vraiment galérer avec les comptes Itunes. Hein. Et si vous voulez acheter des applications en grand nombre, ça va être très compliqué, hein. Par expérience. Hein, parce que je l'ai testé quand j'étais sur Saint-Raphaël, c'est vraiment très compliqué. Donc il faut simplifier la vie, et donc on a cette possibilité, cette carte achat vous permet d'acheter chez Apple, et puis chez d'autres fournisseurs, notamment pour les applications Android, c'est chez Google Play. Voilà.
Autre question ? Bon, alors moi j'en avais une sous la manche, sous le coude, qui s'adresse notamment, enfin on a déjà eu des éléments de réponse en plus depuis le temps où j'ai noté ma question, mais qui s'adresse un peu à Claire Bellil, dans l'optique du thème du congrès qui est la fabrique du citoyen. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur des risques qui existent ou qui n'existent pas du tout, de clivage qui se mettrait en place par rapport au sein de la population sur les façons de lire qui pourraient être induites par la lecture numérique ou pas, par rapport à des catégorisations sociales, par rapport à des jeux de pouvoir au sein de la société, ou des choses comme ça, des déplacements. Bon, on sait bien que la lecture, la culture légitime correspondait peu ou prou avec le type d'organisation sociale de la société. Comment est-ce que cela évolue-t-il avec la lecture numérique ? Peut-être que vous n'avez pas vraiment de réponse, la question est peut-être trop dure.
C'est une vaste question. Je pense que bon, il est quand même très tôt pour commencer à voir des effets de clivage possibles, hein, toujours possibles. Mais je pense que on a vécu sur une lecture qui était devenue nécessaire pour le monde de l'industrialisation. Et on constate que il y a eu une hiérarchisation, c'est-à-dire qu'on a décidé que pour tel groupe de personnes, ça suffisait. Hein, c'était tel diplôme qui correspondait. Pour faire tel métier, on a besoin de tel niveau d'études. Et donc, il y a une répartition des rôles de fait qui s'est mis en place. Je pense qu'avec le numérique, c'est pour ça que je faisais référence à la Renaissance, parce qu'on est dans une période où on jette un peu les cartes en l'air et on va voir quelles sont les hiérarchisations qui vont se mettre en place. Je pense qu'on ne va pas sortir du numérique une société complètement démocratique comme on pourrait la rêver. Il va y avoir des groupes qui vont reprendre le pouvoir et qui vont s'imposer. Par contre, lesquels, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour le dire, personnellement. Mais je crois que ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience qu'on est en train de remettre les compteurs à zéro. Et les gens qui avaient le pouvoir, que ce soit les journalistes, par exemple, les éditeurs, les enseignants, par rapport à la connaissance, hein, par rapport au savoir, puisque c'est ce domaine-là, moi, qui m'intéresse, se retrouvent bousculés, mis en question, invalidés sur beaucoup de choses. Et que ce qui manque le plus pour faire advenir le monde, là, c'est la création, la créativité, la capacité innovatrice, la capacité d'inventer et de ne pas casser ce processus. Alors, à la fois, les outils actuels vont faciliter le développement de la créativité, mais pas les institutions telles qu'elles existent. Il faut réinventer les institutions. Et je crois que sur le plan de l'éducation, ça pose de grosses questions. L'université est en plein bouleversement, parce que l'arrivée de ces cours en ligne là, peut-être que cette fois-ci ça va fonctionner puisque c'est pas la première fois que ça commence, mais cette arrivée vraiment remet en question la formation par saucissonnage. On faisait une heure de ceci, une heure de cela à la fac, c'était une façon très très différente d'envisager le savoir, alors que là on peut envisager une interaction complète. Quelqu'un rentre dans un cours et se forme et peut y passer. Il y a plein de gens qui sont au chômage et qui vont pouvoir passer du temps à se former. Et vous avez des formations de tout. Je pense, par exemple, vous avez des cours au Collège de France, les cours de De Haan. Il a travaillé la lecture pendant 2 ans. Maintenant, il travaille sur les statistiques bayésiennes. Vous avez une formation complète à votre disposition, 2 années de cours. Et une des hypothèses, par exemple, c'est que l'enfant apprend en appliquant ce type d'heuristique pour produire sa connaissance, son savoir. Et donc, c'est extrêmement puissant. C'est accessible à tout le monde. C'est gratuit, c'est sur Internet, c'est en vidéo. Et vous avez à côté tous les supports visuels. Donc, il y a une redistribution des cartes, ça me paraît évident. Qui va en profiter? Qui va pouvoir en profiter? Les élites vont se reformer, ça, je me fais pas trop d'illusions là-dessus, mais je pense qu'on vit une période assez intéressante parce que ce ne sera pas les mêmes élites qu'avant.
Sur cette question là du numérique et des clivages, nous on voit, et alors on tâtonne, on commence, hein, mais notamment par rapport à la question du handicap, hein, c'est là pour le coup il y a un clivage qui saute. Et c'est un projet qu'on développe énormément, et l'utilisation du numérique et de ces nouveaux supports de tablettes pour les personnes qui ont un handicap physique ou mental, c'est vraiment un bond en avant, en tout cas dans l'accessibilité à des contenus qui jusqu'à présent nécessitaient soit une médiation humaine, soit des installations beaucoup plus lourdes. L'autre point, moi, qui me tient à cœur et enfin, sur lequel on travaille un peu à la part Dieu, c'était la question des enfants dyslexiques et des adultes aussi, hein, qui avaient un rapport à la lecture qui était relativement douloureux, qu'ils arrivaient à surmonter. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, l'intelligence qui se développe avec le numérique et la lecture qui se développe avec le numérique est basée sur ces caractéristiques et cette notion du mapping, c'est-à-dire quelque chose de très, très visuel. Comme un soleil, on va dire, et avec des liens, des flèches, sous forme de schéma. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a construit un savoir de façon linéaire, grand 1, grand 2, grand 3. Aujourd'hui, on construit un savoir différent, et que finalement, ce savoir différent, c'est celui qui correspond sans doute au plus grand nombre, et en tout cas qui permet et qui correspond aux enfants dyslexiques et aux adultes dyslexiques. Et je trouve ça assez passionnant de voir comment la connaissance se reforme sur des principes qui ont été niés pendant très longtemps en plus. C'est vrai que ça ouvre beaucoup de perspectives, je pense, intéressantes à suivre.
C'est mes collègues qui m'appellent.
Juste une question de jeune vieux schnock. Toute cette nouvelle appropriation du savoir, elle est fondée sur l'interactivité, la lecture sautillante, celle qui fait un peu mal au cœur. Qu'en est-il, est-ce qu'on ne tue pas le plaisir simplement de recevoir, de ne rien faire, de recevoir une parole, un texte, une création, et comment donc le numérique peut renouveler ce plaisir de la transmission, de la réception passive et heureuse du savoir.
Moi, pour l'un n'exclut pas l'autre. Hein, l'accès à la connaissance, on va dire, il y a un côté l'accès au savoir, il y a un côté efficacité recherchée, esprit de synthèse, etc. Lecture sautillante. Pour moi, la lecture sautillante, elle va de pair avec l'esprit de synthèse, ce qui fait qu'elle n'est pas que sautillante. En revanche, la partie plaisir, elle reste et elle subsiste de deux façons. La première, c'est parce que les livres, et notamment pour le jeune public, auront toujours leur place. Simplement parce que, je vous dis, l'enfant a un rapport corporel, sensoriel au livre. Et pour un enfant, le livre, il a une odeur, il a un goût, souvent, malheureusement. Il a un toucher du papier. Il y a le son des pages qu'on tourne. Et c'est des choses qui sont extrêmement importantes et extrêmement précieuses et que l'enfant n'est pas prêt à abandonner. contrairement à ce qu'on pense. Et ensuite, il y a la posture aussi, c'est-à-dire que ce qui compte dans la lecture d'une histoire ou dans le partage d'une histoire, c'est le plaisir d'être avec quelqu'un qui va nous donner du temps. Ce dont je me rends compte autour de la tablette, c'est qu'alors que j'imaginais que ça allait être une activité solitaire, individuelle, au contraire, c'est une activité très collective qui se crée autour de l'écran. Et finalement, on voit des parents avec les enfants sur les genoux qui adoptent la même attitude que s'ils avaient un livre entre les mains, qui regardent ensemble dans la même direction. On voit des enfants qui se couchent par terre et ils sont quatre autour de l'écran et qui rigolent ensemble des mêmes choses, même s'il n'y en a qu'un qui touche. C'est comme s'il n'y en avait qu'un qui tournait la page. Mais finalement, on retrouve ce plaisir d'être ensemble. Et contrairement à des craintes qu'on pouvait avoir, je trouve que l'écran n'a, et surtout la tablette qui permet de prendre le contenu et de se mettre là où on veut, cette question de posture, là, où est-ce qu'on lit, de s'installer comme on s'installerait avec un livre, ce qui n'était pas possible avec l'ordinateur, réhumanise les choses et on retrouve le plaisir d'être ensemble, le plaisir de rire ensemble ou de frissonner ensemble, de découvrir ensemble, et tout ça n'est pas perdu. Enfin, la possibilité des livres lus sur tablette, ça permet aussi d'accéder à ce plaisir de se faire raconter des histoires quand on n'a pas possibilité d'avoir un adulte à côté de soi. Donc ça pallie aussi parfois un manque. Donc je ne suis pas du tout inquiète, au contraire, sur ces... Enfin, il n'y a aucune concurrence pour moi entre les deux, et les plaisirs restent dans les deux, avec les deux supports.
Oui, bon, on a plus vraiment beaucoup de temps. Allez, on va prendre encore une ou deux questions, mais Mme Bellil, vous avez un petit complément à faire.
Ce que je voulais simplement dire, c'est que le plaisir, c'est pas inné, c'est appris. Et si on trouve ça, expérience de plaisir, si on trouve agréable de lire silencieusement, de recevoir ce que vous appelez la passivité, c'est parce qu'on a appris et qu'on a construit ce plaisir-là. Mais il y a moyen de construire d'autres plaisirs. Et je pense qu'on le voit avec les médias. Tant qu'on a eu des médias qui ne faisaient que diffuser, on s'est accommodé de regarder. On va au cinéma, on regarde un film du début jusqu'à la fin. Et puis, quand sont arrivés des médias interactifs, il y a eu un engouement pour ce type de médias parce qu'ils produisent un autre type de plaisir. Et le plaisir a été bien étudié sur le plan neurologique. Et les neurologues nous ont bien fait comprendre que, par exemple, pour que vous trouviez quelque chose d'agréable, il faut que vous en ayez eu envie, que vous ayez une expérience réussie. Cela, pensez à la nourriture, par exemple. On sait que demain, on va manger des insectes. Combien de personnes, juste l'idée de manger des insectes, ça les hérisse. Et pourtant, on mange bien des escargots, on mange bien des crevettes. Je veux dire qu'il y a le plaisir s'apprend. Et pour arriver à trouver ça agréable, c'est pour ça que la lecture sur support numérique n'est pas agréable pour tout le monde, il faut avoir eu une expérience réussie. Pour avoir une expérience réussie, il faut déjà avoir eu envie de lire. Comme il faut avoir envie de goûter un insecte, une fourmi grillée, pour pouvoir dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc, il y a ce problème du plaisir. Je pense que les gens qui investissent le numérique, c'est parce qu'ils y ont construit des expériences de plaisir.
Alors, attendez, les questions commencent à fluir. Il y en a une là et une autre derrière. Mais après, il faudra qu'on arrête parce que vraiment, il est déjà midi 20. D'accord, on prend les deux questions d'un coup.
Il a été rappelé qu'un des rôles des bibliothèques, c'était de faire lire et de lire. Moi, ma question concerne surtout un public adulte. Est-ce que la lecture numérique crée des nouveaux lecteurs, ou est-ce qu'en fait, ce sont toujours déjà les grands lecteurs, je dirais, de livres, papier, qui lisent du numérique?
Alors, première question. Une autre question, et on va répondre aux deux à la fois.
Oui, moi, en fait, c'était plus une remarque et une réaction par rapport à la question de la passivité de la lecture, avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord. Enfin, moi, j'ai un positionnement inverse, parce que je ne suis pas forcément convaincu que l'interactivité qu'on a avec le numérique est forcément active, et je ne suis pas convaincu que la lecture qu'on a avec un livre imprimé est forcément passive. Je pense, par exemple, à un livre de Julien Gracq qui s'appelle « En lisant, en écrivant », qui montre justement qu'il y a une corrélation étroite, et ça, on le sait tous en tant que lecteur et a fortiori en tant que bibliothécaire, que quand on lit, on déborde d'envie d'annoter, etc. Moi, je suis à titre personnel, je ne suis pas convaincu par les expériences que j'ai eues technologiques, je veux dire, avec les liseuses, pour annoter, pour réagir. Je porte un regard différent grâce à l'intervention de Franck Quéreau, parce que je vois qu'avec avec Pubinet, etc., il y a des écritures collectives qui se mettent en place, donc je nuance un petit peu mon avis. Mais moi, justement, j'ai un positionnement inverse. Je trouve qu'on est actif avec du livre imprimé, peut-être beaucoup plus finalement que quand on est interactif avec c'est pour un petit peu réfléchir sur la notion d'action, d'investissement qu'on a en tant que lecteur. Et est-ce que l'interactivité est forcément active, productive c'était pour un petit peu mettre en balance les choses.
Bien, alors, qui se sent de répondre
Je vais essayer de répondre aux trois questions en fait. Actuellement, tout à l'heure, j'ai prononcé le mot d'expérimentation. Donc, pour répondre à votre question précisément, pour l'instant, on n'a pas encore trop de retours. Mais je vais vous faire une réponse. Quand on a acheté en bibliothèque des livres de petits éditeurs de littérature contemporaine et dont on a fait la promotion dans les bibliothèques, c'est exactement le même travail qui va se poursuivre avec le numérique. On va être obligé de travailler là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas encore trop de retours. Ce qui est intéressant, c'est les expériences qui se faisaient à Saint-Raphaël, à Toulouse. Enfin, il y a beaucoup d'expériences maintenant de prêt de liseuses, etc. Alors, le prêt des liseuses, actuellement, à cause du système économique et du marché des liseuses qui n'est pas encore choisi, sur les liseuses, qu'est-ce que vous mettez actuellement? Vous mettez des livres du domaine public, libres de droit. Moi, j'adore le rouge et le noir, mais je ne suis pas sûr qu'on va conquérir des publics avec ça. Voilà. Actuellement, on a des éditeurs qui sont français, qui sont extrêmement frileux. Ils ont peur de du téléchargement illégal. Mais bon, moi, je ne sais pas, ça se saurait si les gens y téléchargeaient massivement des livres. Combien il y a de lecteurs en vrai, enfin, je veux dire, 83% des gens ne viennent pas dans une bibliothèque. Est-ce que ces gens lisent? Apparemment, ils lisent aussi puisqu'ils utilisent des sites de recommandation style Babelio. Voilà. Après, moi, l'interactivité... un livre numérique n'a pas forcément besoin d'être interactif. On ne doit pas faire un CD-ROM. Moi, ce que j'essaie de vous montrer tout à l'heure, c'était qu'il y a des auteurs qui commencent à inventer des histoires pour que quand on lit ce livre, on soit dans une expérience de lecture renouvelée. Allez lire un peu La Croisée des Marelles qui est sortie chez Publinet, c'est vraiment intéressant. Et on peut avoir, comme vous disiez, monsieur, une lecture passive. Sur les livres papier, parfois, moi, il y a des choses qui m'embêtent quand je lis des traductions de romans et il y a 15 000 notes. Vous savez, 1, 2, 3, 4, ça existe déjà dans le livre papier, ce dispositif d'interaction en fait, avec le lecteur, on ne s'en rend plus compte. Mais en fait, quand on lit une traduction, et puis il faut aller lire la note 1, la note 2, etc., moi, ça me perturbe la lecture. Donc souvent, je ne les lis pas. Et si j'aime bien le livre, je lis une seconde fois, et puis je lis de manière plus réflexive, intensive, etc., si ça m'intéressait. Voilà, je ne sais pas si je réponds à toutes les questions, mais je pense qu'on n'est pas obligé non plus d'adhérer à ça. Enfin, moi, j'ai posé des questions tout à l'heure sur l'interactivité, l'interaction avec les lecteurs. Est-ce que c'est bien que les lecteurs donnent des commentaires sur ce qu'écrit un auteur? C'est l'auteur qui choisit de le faire ou pas. Après, dans le monde du livre imprimé, il y a aussi plein de gens qui vont à des colloques pour étudier les œuvres, les manuscrits des éditions de Stendhal, etc. Et il y a déjà des gens qui s'intéressent à ce type de... Le numérique n'invente rien par rapport à ça. Voilà. Donc je pense qu'il faut... si vous faites des expériences, je pense qu'il faut les partager sur le web, dans votre bibliothèque. Et puis, il faut qu'on conquérir des nouveaux publics. Et ce qui est surprenant, là, sur l'expérience qu'on avait à Saint-Raphaël, on a vu... moi, je ne rentre pas dans le débat tablette versus liseuse électronique. En ce moment, les journalistes adorent faire X versus Y, toujours. Ils font toujours ce genre de choses. On a remarqué à Saint-Raphaël qu'il y a des gens qui, il y avait un public pour les liseuses, des gens qui avaient envie d'avoir justement une lecture attentive et pas sur une tablette. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais on a tous toujours, on commence un livre. Ça m'est arrivé il y a 3 jours. Je commençais à lire un bouquin, puis je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai pas reçu un mail que j'attendais? Je suis allé le voir et après je suis resté sur ma boîte aux lettres. Et du coup après je m'en suis voulu. Je me suis dit, mais je voulais lire, voilà. Et donc finalement, les tablettes aussi sont multitâches, etc. C'est très bien. Hein, y a des avantages et des inconvénients dans chacun des outils. Je trouve que la liseuse électronique n'est pas morte. Je pense que pour nous, les bibliothécaires, pour développer un fond, faire connaître la littérature contemporaine ou faire des expériences après pour les enfants, enfin tous les types de publics, ça peut être vraiment intéressant, quoi. Voilà. Et nous, on a vu arriver... Bon, c'est anecdotique, mais sur Saint-Raphaël, toute une personne de personnes âgées qui avaient eu des liseuses à Noël et qui n'arrivaient pas à les faire fonctionner, mais qui étaient très intéressées. Et une fois qu'elles ont eu le mode d'emploi, hein, parce que ce n'est pas forcément évident, elles se sont mises à lire. Elles ont trouvé un intérêt à ça. Voilà. Donc voilà, je crois que c'est des nouvelles possibilités. Il faut qu'on les explore, l'un ne chassant pas l'autre. Hein, l'une ne chassant pas l'autre, pardon.
Alors écoutez, vous n'aurez pas droit à une conclusion brillante du modérateur, mais il est 12h25, on a plus que dépassé, donc ce que je peux vous dire, c'est vous souhaiter bon appétit et on essaiera de retrouver effectivement d'autres occasions de d'épuiser le sujet. Et aussi, vous pourrez consulter le site où les 3 présentations seront publiées. Merci à tous.
Simplement, si vous avez un peu de temps, je sais que le congrès est très dense, mais si ça vous intéresse de venir voir l'exposition à la Part-Dieu Récréation, on est juste en face de la gare, c'est ouvert de 10h à 19h. Il y a des médiatrices, enfin c'est en accès libre hein, dans les 2 salles d'exposition. Il y a des médiatrices qui sont là pour vous renseigner si besoin. Voilà, merci.